Santé, une chronique libre autour des corps, du soin, des soignants,
soignantes,
des patients,
patientes
et du système de santé. Action locale pour une santé globale, à la rencontre des actrices santé du territoire. Deuxième épisode. Salut. Pour cette nouvelle émission, on va continuer à se promener dans la vallée de la Drôme à la rencontre des élus du territoire, pour mieux comprendre les actions qu'ils et elles réalisent en matière de santé, leurs projets pour la nouvelle mandature ou encore les moyens à leur disposition. Le mois dernier, on s'est ainsi intéressé à l'échelon communal en rencontrant l'adjointe à la mairie de Cré en charge de la santé et un membre du collectif AVEC, Agir et vivre ensemble à Cré. On va maintenant monter d'un cran et s'intéresser à l'intercommunalité, regroupement de plusieurs communes qui exercent des compétences à la place de ses membres. Cré appartient à la 3CPS, la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, mais elle est directement limitrophe de la communauté de communes du Val-de-Drôme, la CCVD, qui a la particularité de travailler depuis plusieurs mois à la mise en place d'un contrat local de santé. Ce projet est également porté par la nouvelle équipe de Cré au niveau de la 3CPS. Il m'a donc paru intéressant d'en savoir plus sur ce fameux contrat. J'ai sollicité Catherine Jacot, vice-présidente de la CCVD en charge des solidarités, qui a accepté de répondre à mes questions. Petite précision, dans l'interview que vous allez entendre, on parle de CPTS, mais sans vous dire ce que c'est. Alors les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé qui regroupent les professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. On enfourche notre vélo, on passe sous le périph' de Cré et sous la voie du TGV, direction l'écosite, situé sur la commune de Heure. On pousse la porte de la CCVD et c'est parti.
J'ai visité Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland. Plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Des manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Le bus, le train, l'escalator, du métro, des mégastores. Des spectacles, il y en a plein la vie de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau regard, d'une nouvelle attention. Et ta ville devient ce parc où mille et une attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ambition.
Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêve ce parc et passe aux réalisations.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc.
Quelle est ton ambition?
Des aventures tu en vivras, en réalité rarement.
Et pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour, donc je m'appelle Catherine Jacot, je suis alors dans la vie infirmière et par ailleurs vice-présidente, alors en charge des solidarités, c'est important et c'est pour ça qu'on mettra la santé dans les solidarités. Depuis ce mandat, j'étais auparavant vice-présidente aussi à l'intercommunalité. Par ailleurs, je suis élue sur la commune de Loriol.
Vous évoquez donc les solidarités avec la santé dedans et donc tout d'abord une première question, pourquoi n'y a-t-il pas de délégation santé à la CCVD? Alors qu'il s'agit d'un sujet d'importance qui ne se cantonne pas à la question de l'accès aux soins, mais qui concerne aussi le logement, l'alimentation, la qualité de l'eau, de l'air, ou encore la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives. Et votre voisine, la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, la 3CPS, a d'ailleurs fait le choix de créer une délégation santé au sein du nouveau conseil.
Comme vous le précisiez, effectivement, il n'y a pas de délégation santé affichée officiellement. Néanmoins, je vous ai précisé, je suis adjointe aux solidarités. Les solidarités, c'est la santé, et effectivement tout ce qui peut concourir, donc le logement, l'alimentation, le CIAS. Donc voilà, on a fait le choix effectivement de prendre les solidarités au sens plus large plutôt que de restreindre à la santé.
On va parler maintenant un peu du cadre d'action des intercommunalités en matière de santé. Ces dernières, à l'instar des communes, n'ont pas de compétences obligatoires dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des compétences facultatives ou optionnelles que les intercommunalités peuvent choisir d'exercer et qui concernent la santé?
Je confirme bien que la compétence santé n'est pas une compétence de l'intercommunalité. Pour autant, on travaille effectivement les politiques transversales qui sont le logement, l'alimentation, qui sont des compétences effectivement intercommunales.
Vous l'avez évoqué, vous aviez en charge la question des solidarités lors de la précédente mandature. Donc avant d'évoquer le futur, est-ce que vous pouvez nous résumer les principaux axes de travail en santé lors de votre précédent mandat, justement?
Je pense qu'il serait intéressant de faire un petit peu une genèse et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à la santé, en fait. Sous mandat précédent, j'étais en charge du CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, dans lequel nous avions des conseillers sociaux qui, au fil du temps, trois conseillers sociaux, et au fil du temps, on s'est rendu compte que leur mission dérivait de plus en plus vers la santé. A vu le jour la nécessité de recruter des médiatrices santé, c'est à partir de ce moment-là où la thématique santé est devenue prégnante sur l'intercommunalité. Et par ailleurs, on avait des projets de territoire qui ont vu le jour aux alentours de 2024, où effectivement le travail sur la solidarité, lutter contre les inégalités sociales du territoire, ont vu le jour. Voilà, ça c'est un petit peu la genèse sur pourquoi on est arrivé à un contrat local de santé.
On l'a déjà évoqué, les intercommunalités n'ont pas de compétences propres en matière de santé. Et pour résumer, la politique de santé est définie d'abord par l'État et mise ensuite en œuvre à l'échelle des territoires par les agences régionales de santé, les fameuses ARS. Et ces dernières promeuvent la mise en place au niveau intercommunal de ce que vous venez de mentionner, donc le contrat local de santé. Donc pour rappel, il s'agit d'un outil de contractualisation entre l'ARS et les collectivités territoriales qui vise à améliorer la santé des populations en coordonnant les politiques publiques locales dans le but finalement de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Dans la Drôme, il y a à ma connaissance à ce jour 6 contrats locaux de santé actifs, dont un seul dans la vallée qui est porté par la communauté de communes du Diois. Et comme vous l'avez déjà mentionné, la CCVD a effectivement choisi depuis plusieurs mois de s'engager dans la mise en place de cet outil. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais pourquoi avoir décidé de mettre en place un contrat local de santé sur la CCVD et quels en sont les principaux objectifs?
En 2016, nous avons eu un premier diagnostic local de santé, donc on est resté à l'état de diagnostic, qui disait le territoire finalement va bien, la population continue à augmenter, on a un quart de la population qui est jeune et une offre de soins qui est somme toute raisonnable, les gens sont relativement satisfaits. Devant le travail des conseillers sociaux et des médiatrices santé, la décision a été prise de refaire un nouveau diagnostic et de voir ce qui avait pu changer sur le territoire pour que nos médiatrices santé soient autant occupées. Et ça a été un petit peu la surprise, effectivement, d'un territoire qui allait bien avec deux grandes villes qui étaient bien pourvues en médecins. Aujourd'hui, on se rend compte que les communes de Loriol-Livron, c'est un petit peu le désert médical. Et à titre d'exemple, on est passé donc en 10 ans à 44 médecins sur le territoire, à aujourd'hui 17 médecins, pour une population qui a augmenté, qui aujourd'hui avoisine les 32 000 habitants. Voilà. Donc deux grandes villes qui sont un petit peu désertifiées et en difficulté en termes de soins, pour un arrière-pays qui est un peu plus confortable. On a vu des médecins qui sont installés dans des villes moyennes, je pense à Montoison, à Grannes, au détriment effectivement d'autres plus grandes villes. Ça a été effectivement un changement en 10 ans de temps. Non, moi, il y avait eu des signes d'alerte, parce qu'il y a 10 ans, on disait, effectivement, il y a des médecins sur le territoire. Mais sur cette masse de professionnels de santé, attention, 67% plus de 55 ans. Ce qui veut dire que, le temps faisant, ils vont partir à la retraite et on risque d'avoir un problème 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, on est devant cette problématique de médecins qui ont pris leur retraite et qui n'ont pas été remplacés.
De manière un peu synthétique, quelles sont les étapes qui suivent ensuite le diagnostic ?
Un premier diagnostic, vous savez que c'est une compilation de données un petit peu froides, population, jeunesse, offre de médecins, etc., etc. Passé ces premières données, on a fait trois groupes de travail, puisqu'il faut préciser que notre contrat local de santé porte sur trois axes, qui est effectivement l'environnement, pourvoyeur effectivement de bien-être pour les habitants, la santé mentale, on en reparlera peut-être, et puis effectivement l'offre de soins. Et pour ce faire, on a rencontré lors de ces trois groupes, effectivement, des associations professionnelles de santé, des partenaires, que ce soit de l'ARS, que ce soit des différents hôpitaux, pour faire un petit état des lieux sur ces trois thématiques. Voilà. On est arrivé à cette phase où on a un diagnostic qui a été posé en disant, sur l'environnement, somme toute, ça va pas si mal. On sait qu'on a malgré tout des problématiques au niveau de l'air. On a des pollens, il y a l'ambroisie, mais un paysage qui est bien fait, une rivière, un petit peu de bruit dans la vallée. Donc ça, c'était pour l'environnement, sachant que par ailleurs, mes collègues élus continuent à travailler sur cette thématique. Je pense au plan climat, air, énergie, qui effectivement travaille sur toute cette thématique-là. Sur les données offre de santé, c'est là où ça s'est un petit peu compliqué, parce qu'on a vu effectivement des associations, des habitants, des professionnels de santé qui ont mis en avant cette carence de médecins, hein, de professionnels de santé et de difficultés pour accéder aux soins, la difficulté pour les habitants en termes de mobilité, parce que c'est toujours très compliqué quand effectivement on habite une petite commune et qu'il faut se rendre à Cré ou à Valence alors même qu'on ne conduit pas. Et puis un coût parfois, si on parle un peu de la santé mentale, avec effectivement la complexité pour accéder à un orthophoniste, le coût que ça peut avoir, les délais d'attente. Voilà, c'est toutes ces difficultés qui ont été mises en avant dans nos, en interpellant un petit peu tous nos partenaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fini cette phase-là de diagnostic. On est en train de les compiler, de compiler un petit peu tout ça pour mettre en place nos pistes d'action. Voilà. Donc on en est à la phase phase intermédiaire où il y a encore pratiquement pour un petit, une petite année de travail de rédaction, voilà, de coordination avec tous ces professionnels de santé, tous ces partenaires, et puis la signature du document avec l'ARS.
Si on parle un petit peu de sous et de moyens, sur son site internet, l'ARS indique simplement qu'elle apporte un soutien financier pour prendre en charge avec la collectivité locale le poste de coordinatrice du contrat local de santé. Est-ce que la CCVD perçoit d'autres aides de l'ARS ou d'autres partenaires ?
Alors, montage financier, donc je vous ai parlé de la phase diagnostique qui a été faite par l'Observatoire régional de la santé. Ce diagnostic est financé par l'ARS, donc pour le compte de l'ORS. Un premier financement. Alors, sachant que, comme nous avons choisi de travailler trois pistes d'action, l'ARS n'en prenait en charge que deux. Donc l'intercommunalité a dû financer cette troisième piste d'action qui portait sur l'offre de soins. Et par ailleurs, la personne qui est en charge de l'orchestration de ce contrat de local de santé est financée à moitié par l'ARS. Hein, donc la CCVD finance la moitié d'un poste et une partie du diagnostic de son contrat local de santé.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres intercommunalités qui ont déjà mis en place des contrats locaux de santé, comme la CCD qu'on a mentionné, Valence ou l'agglomération de Montélimar, par exemple pour du partage d'expérience ou voire une mutualisation de moyens ?
On a travaillé de façon informelle, c'est-à-dire qu'on les a rencontrés alors même qu'on voulait mettre en place ce CLS, c'est-à-dire retour d'expérience. On a d'ailleurs rencontré la Comcom du Diwa, on a rencontré Valence aussi pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, quel était l'intérêt d'un tel outil. Voilà. Au-delà de ça, je voulais repréciser, on est bien sur une phase d'élaboration et pour l'instant, il n'y a pas d'interaction et de lien avec, vous aviez parlé notamment de la commune de Cré, on n'a pas été sollicité, donc pour l'instant, voilà, on finit déjà notre partie diagnostic, on travaille les pistes d'action et je pense que peut-être c'est à ce moment-là qu'on pourrait créer des liens.
Vous mentionnez la ville de Cré, dont le centre hospitalier est un établissement de référence pour le territoire. Et notamment pour les habitants et habitantes de la CCVD, dont ne fait pas partie Cré. Est-ce que cela est pris en compte dans le contrat local de santé ? Est-ce que c'est une problématique ou est-ce que vous êtes plutôt tourné vers le CH de Valence ou le CH de Montélimar ?
Ce que je vous expliquais peut-être, c'était qu'une partie de la population et des habitants du territoire se retourne vers Cré. Donc l'hôpital de Cré, les professionnels de santé, qui peuvent être les kinés par exemple, sont effectivement des ressources en termes de soins pour une partie de notre territoire. Partie proche, puisque je vous l'ai expliqué, on a une problématique de liaison et de transport vers Cré, notamment si vous habitez l'Auriol, il n'y a pas de ligne pour aller à Cré. Donc c'est très compliqué, ce qui fait que ce sont plutôt les communes les plus proches de la ville de Cré qui se rendent à l'hôpital.
Les contrats locaux de santé doivent intégrer un volet spécifique sur la santé mentale, qui peut se faire notamment au travers de la mise en place d'un conseil local de santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est-ce que vous en êtes sur ce sujet, ce qui est prévu, éventuellement les partenaires que vous avez dans la vallée, je pense notamment à des associations de patients ou d'autres structures.
Alors effectivement, le volet santé mentale en termes de ressources est très vaste, très compliqué, puisqu'effectivement les partenaires et l'accès aux soins peuvent se faire de la naissance jusqu'aux personnes âgées, hein, puisqu'il ne faut pas négliger les habitants un peu plus âgés. Alors, il y a bon nombre de structures et on peut trouver des aides. Par contre, c'est très compliqué à les connaître. Donc c'est l'intérêt un peu de notre CLSM, comme vous l'avez dit, c'est bien un conseil, et c'est là où effectivement c'est intéressant par rapport à un document. On a parlé du contrat local de santé qui est bien un outil et un document. Le CLSM est plus sur la mise en place d'un conseil, donc de la concertation et de la rencontre avec des professionnels de santé, des associations, enfin tout le monde qui tourne autour de la santé mentale, pour essayer de faciliter un petit peu cet accès aux soins pour la santé mentale. Pour le moment, c'est très, très compliqué. Et on a toute une partie de la population qui est en souffrance, qui est effectivement la population jeune. On ne va pas toujours reparler du Covid, mais on a la génération post-Covid, avec des jeunes qui ont été un petit peu enfermés, qui ont appris à parler avec des personnes qui avaient des masques sur la figure, des jeunes qui ont été confinés chez eux, devant les écrans, repliés devant les écrans. Et je pense qu'aujourd'hui, on paye un petit peu tout cela. Donc on a une population jeune qui est en souffrance, pour lequel nous, intercommunalité, on essaie de créer des tiers-lieux, il y a des camps de vacances, il y a des centres sociaux, voilà, créer du lien autour des jeunes. Mais pour l'instant, je pense que la santé mentale, ça reste un petit peu le parcours du combattant, parce que des listes d'attente phénoménales, il faut parfois attendre 1 ou 2 ans pour être reçu quand il y a des diagnostics à poser, avec toujours cette même difficulté, pas de médecin traitant dans un premier temps qui peut orienter. Donc vous avez des jeunes qui restent en souffrant, qu'on retrouve après un peu plus âgés, avec des mères qui sont parfois obligées de prononcer des obligations de soins. De plus, on a un découpage sur le territoire, et je reviens toujours à ça, en termes d'accès à la santé mentale qui est compliqué. L'Auriol et Livron, je rappelle quand même que c'est plus de la moitié de la population du territoire, aujourd'hui sont obligés d'aller sur Priva. Et quand vous voulez faire Livron-Priva, c'est mission impossible. Ce qui fait qu'en fait, on a toute cette partie de population qu'on redirige vers ce centre hospitalier qui refuse de soigner. Donc il ne peut plus soigner. Voilà. Donc peut-être il y a des... J'aime à croire que peut-être on reviendra à un découpage en termes de santé mentale qui existait il y a 10-15 ans, à savoir des permanences. On avait l'hôpital de Montélégé qui faisait des permanences, CMP qui faisait des permanences, L'Auriol-Livron, où les jeunes, une fois par mois, pouvaient accéder à une ordonnance. Ça a disparu, ça a été redispatché sur Priva, et on voit que les jeunes ne vont plus. Voilà.
Est-ce que les habitants du territoire sont impliqués dans le déploiement du contrat local de santé? Et si oui, de quelle manière?
Je vous ai parlé de ces 3 groupes de travail, les 3 thématiques de notre CLS. Ils ont été bien sûr invités. Il y a eu toutes les associations, par exemple, je ne vais pas toutes vous les citer, mais des associations qui s'occupent des handicaps, qui s'occupent de logements pour les personnes plus précaires. Vous avez eu des professionnels de santé et vous avez eu, alors, pas les habitants, le tout venant, si je puis mettre avec des guillemets, c'est passé un petit peu par les élus qui étaient représentants un peu. Les CCAS sont intervenus, donc les CCAS, on a eu des agents, des communes qui étaient les porte-parole des habitants.
Quelles sont les étapes suivantes? Est-ce que vous avez des échéances que vous pourriez nous indiquer au-delà du diagnostic?
Alors, la prochaine étape, je vous ai dit que là, on est en train de compiler, puisqu'on a eu 3 groupes de travail sur nos thématiques, les habitants, les professionnels de santé, etc., etc. On est en train de compiler tout ça pour amalgamer et trouver des pistes de travail. Ces pistes de travail seront... On reprendra les partenaires qu'on a eus dès le départ, au mois de juillet, donc une concertation avec eux en fonction de leur dire « Voilà les pistes d'action qui ont été dégagées. Maintenant, est-ce que vous avez envie de mettre des actions concrètes ? Quelles sont-elles ?» Voilà. Et on sera, ça, c'est le travail du mois de juillet. Il va y avoir encore un travail de compilation et, pour le coup, concertation avec tous nos partenaires pour effectivement mettre en œuvre ces souhaits des habitants. Ça sera courant mars 2027. On peut espérer avant peut-être mi-2027 aboutir à la signature de ce CLS. C'est-à-dire que juillet, c'est une première étape clé, un rendu, piste d'action et action concrète à travailler avec les habitants et les partenaires. Rédaction, donc on sera en juillet. Fin d'année, on aura un rendu auprès de nos professionnels en disant « Voilà ce que les habitants souhaitent mettre en place, comment vous pouvez nous aider ?» Rédaction finale du document mars-avril 2027. On peut espérer avant l'été 2027, donc dans un an, la signature officielle de CLS. C'est long, CLS, finalement. Mais quel que soit le temps, le laps de temps, c'est un. Alors, je crois que c'est un outil, et comme tout outil, il doit évoluer. Donc, ça sera l'objet, effectivement, comment on va faire vivre après ce contrat local de santé. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un énième document, on en a beaucoup, tous beaucoup, et c'est le rôle, effectivement, d'un coordinateur. C'est le rôle et le souhait des élus de mettre en place peut-être des commissions, alors qu'on a appelé pompeusement commission santé, c'est-à-dire une fois ce CLS signé. Comment on peut l'abonder, comment on peut le modifier, quel est le devenir, comment on peut interpeller. Voilà, c'est l'objectif de ce document.
Quand vous dites partenaires, c'est par exemple les CPTS, les professionnels de santé libéraux, les associations de patients.
Tout à fait. Alors, on a un territoire, vous avez parlé des CPTS, bien entendu que les CPTS sont des partenaires privilégiés. Alors, on a un territoire un petit peu bizarre. Je crois qu'on a deux CPTS et une grande partie du territoire qui n'est pas couvert par une CPTS. Donc je vous ai parlé de Loriol-Livron, c'est pas tout. Alors quand je dis Loriol-Livron et les communes attenantes, c'est le trou dans la raquette. C'est deux grandes communes qui sont en grande difficulté pour lesquelles il n'y a pas de CPTS. Deux CPTS, c'est Plaine de Santé et Porte de Provence. Voilà, rien sur Loriol-Livron. L'idée, c'est une des CPTS couvre et englobe Loriol-Livron sur. Pour effectivement pouvoir travailler plus en avant, hein, la promotion, prévention, santé, ces structures qui sont importantes, mais qui malgré tout ne sont pas toutes puissantes. Hein. Je vous ai dit 44 médecins en 2016 sur le territoire, 17 aujourd'hui, avec la meilleure volonté du monde, on ne trouvera pas des médecins traitants à tout le monde.
On peut aussi évoquer d'autres actions menées par l'intercommunalité.
Voilà, effectivement, on a développé depuis un peu plus de 2 ans donc ce qu'on appelle pompeusement, avec le soutien du département, les maisons des internes. Donc, dans un premier temps, on était un petit peu naïf. On s'était dit, on va accueillir des internes sur notre territoire, ça va leur plaire, ils vont rester, ils vont s'installer. Bon, on est un petit peu revenu sur notre choix. Néanmoins, on travaille pour faire que les médecins qui sont déjà installés aient un peu ce renfort et ne fassent pas un burn-out, entre guillemets. Donc aujourd'hui, sur le territoire, on est en capacité d'héberger 5 internes en fin d'études qui peuvent effectivement aider les médecins déjà en place. Donc 3 internes sont accueillis à Loriol et 2 sur Montoison. Donc ça, c'est un effort de la collectivité qui prend en charge avec le département l'hébergement des internes, donc la gestion des appartements, les fluides, l'alimentation, le matériel, etc. etc.
Voilà. Et est-ce que ces internes ont ensuite un engagement à rester ensuite quelques années en exercice sur le territoire?
Donc ce sont des internes en fin de cycle, en médecine générale, donc il n'y a aucun engagement, ni de la part du département, ni de la part de l'interco qui aide à cet hébergement, quant à leur future installation sur le territoire. Néanmoins, on suit aujourd'hui, il y a des réunions entre l'ARS, l'Ordre des médecins, sur cette réforme qui a été faite pour les jeunes docteurs. La réforme dit des jeunes docteurs qui permettrait effectivement à des internes, en cours de spécialisation, puisque vous savez que maintenant, être médecin généraliste, c'est une spécialité au même titre qu'un chirurgien ou un urologue, l'obligation effectivement de faire une année de pratique et d'installation auprès d'un médecin traitant. Donc l'idée, c'est peut-être, si d'aventure certains médecins étaient en capacité d'accueillir ces jeunes docteurs, d'être facilitateurs, c'est-à-dire d'aider les collectivités à soit aménager des cabinets pour accueillir ces internes qui viendraient faire... qui viendraient pratiquer pendant un an auprès d'un autre médecin, donc permettant effectivement d'accueillir un peu plus de patientèle.
Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez partager sur les actions que la CCVD va mener en matière de santé, qui sont éventuellement transversales?
Alors, bon, je vais tout seigneur, tout honneur, je vais vous parler effectivement de ma délégation, puisque je vous ai parlé des solidarités. Donc, effectivement, on a par exemple l'alimentation. Hein, c'est mes collègues qui travaillent sur une alimentation en lien... avec le CIS, donc l'idée c'est effectivement de bien manger, manger local, manger bio. Personnellement, je travaille par exemple sur l'habitat. Alors, c'est une composante environnementale ou pas, mais effectivement, la lutte pour le bien logement, entre guillemets, la lutte contre l'habitat indigne, faire que tout le monde puisse avoir un logement, c'est une difficulté sur notre territoire. On le voit bien, c'est très compliqué de se loger. Donc voilà, il y a un travail sur les bailleurs, avec les bailleurs, un travail sur la réhabilitation du logement. Je vous ai parlé du plan du PCAET, plan climat, air, énergie du territoire. C'est tout un travail qui se fait sur la précarité énergétique, par exemple. La santé, il y a l'offre de santé qui est vraiment très particulière, travailler sur les médecins, mais Les politiques transversales qu'on mène ici, c'est les politiques qui sont menées avec, je vous ai parlé du lien social. Donc j'ai une collègue qui va s'occuper des tiers-lieux, de la mobilisation, le travail avec les France Services, c'est pareil. C'est aussi travailler sur la santé que de faire, que de permettre à quelqu'un d'avoir une carte vitale, d'être, voilà. Donc tout ça, c'est du travail transversal. En gros, c'est la politique complète d'une interco, quoi.
Des actions locales pour une santé globale, on va dire. Oui. Je vous remercie pour cet entretien et donc je vous souhaite bon courage pour la suite.
Un, deux, trois, feu.
Voilà, cette deuxième rencontre est terminée. Comme on a pu l'entendre, les élus intercommunaux font le même constat que leurs alter-ego municipaux, à savoir que la santé des populations est multifactorielle et qu'il faut donc agir à plusieurs niveaux, logement, qualité de l'air, de l'eau et des sols, action sociale, alimentation, etc. Pourtant, le premier problème auquel les collectivités de la vallée doivent faire face, c'est celui de l'accès aux soins et aux professionnels de santé, sur lequel elles ont très peu de moyens d'action. Et malheureusement, comme nous l'a rappelé Catherine Jacot, dans certains territoires, cela se traduit par un retard de diagnostic et de prise en charge, voire par un renoncement aux soins, en particulier dans le domaine de la santé mentale, ce qui peut finalement rendre en partie caduques les efforts menés dans les autres domaines. Alors, prochaine étape, on va au ministère de la Santé poser la question des moyens ? Allez. Santé.
Des aventures, tu en vivras, en réalité rarement. Si tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent, les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateurs. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc ni zapper sa population.
Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions.
Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Tel Zorro ou tel Robin.